Bonjour Nicolas Liodard.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène, mais aussi acteur dans une pièce qu'on vient de voir qui s'appelle Balthazar.
Oui, je remplace Jürg Haring qui s'est cassé le pied. Et comme j'étais un peu le seul à être en mesure de reprendre rapidement le rôle, me voilà.
Donc c'est une pièce que vous avez écrite ?
Oui.
Alors on peut dire que c'est une pièce bien barrée quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur, comme on pourrait le voir, linéaire, voilà.
C'est-à-dire que c'est une pièce qui est construite de façon à laisser la place à celui qui y assiste, lui laisser la place de construire sa propre histoire. Donc oui, ce n'est pas une construction linéaire, mais avec un peu d'attention, il y a beaucoup d'indices qu'on peut raccorder. Et chacun peut démêler une histoire, une autre, ou différentes profondeurs également de sens.
Oui, c'est ça, parce qu'on sent que, bon, alors, d'une part, que ça s'adresse peut-être pas au cerveau logique, et que d'autre part, on sent que c'est très réfléchi en amont.
Oui, oui, bien sûr. Et ça s'adresse aussi à celui qui voudra faire l'effort pour aller vers. C'est pas un spectacle qui est projeté, tout digéré et donné au spectateur. On fait la moitié du chemin. Le spectateur doit faire la deuxième. Comme disait Dante, je t'ai servi, mange à présent tout seul. Dans la Divine Comédie, qui est un peu écrit, bon, sans comparer la Divine Comédie, mais cette forme d'écriture qui reste aussi énigmatique et qui demande un effort pour comprendre le sens. Le sens n'est pas donné. Il se mérite.
Oui, vous dites que le spectateur participe à la création de l'événement.
Oui, 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 c'est ça, absolument. Et c'est ma conception du théâtre, de toute façon. Pour moi, le théâtre, c'est composé de tout ce qu'il y a dans la pièce, et toutes les personnes et toutes les choses et les objets qui sont dans cette pièce à ce même moment-là. Donc c'est autant constitué de l'ensemble des spectateurs, du groupe des spectateurs, que des acteurs, des techniciens, de toutes les personnes présentes. Ça, c'est important.
Oui, et en fait, vous, sur scène, on a l'impression que vous suivez une recherche. Ça, vous faites une recherche de théâtre, à la fois les lois du temps, de l'espace, de la parole, le théâtre en général.
Absolument.
Et vous expérimentez peut-être à chaque prestation, à chaque représentation.
Oui, il y a un degré de variation d'un soir sur l'autre. Mais là où l'expérimentation est plus évidente, c'est dans la façon dont le spectacle est découpé, avec des esthétiques très différentes. Et même des genres très différents, puisqu'on est sur le théâtre d'ombre, ensuite le conte, ensuite le théâtre plus classique avec une situation, ensuite voilà, du clown, enfin d'un numéro de cirque même, avec l'âne qui part, ça relève d'un numéro typique de cirque, et puis du théâtre improvisé. Donc il y a presque 6 théâtres différents dans ce spectacle. Voilà, il n'y a pas d'unité esthétique en tout cas.
Alors pour en revenir à la pièce, vous disiez, enfin, rien n'est donné comme ça de prime abord, mais il y a beaucoup de références, on peut en citer peut-être quelques-unes, notamment l'âne, Balthazar, je pense que ça vient de Bresson peut-être, non ?
Oui, au début, juste le titre, parce que l'histoire n'a vraiment rien à voir, mais c'est vrai que la première idée était de dire, tiens, parce que comme j'avais déjà travaillé sur une transposition au théâtre du cinéma, notamment avec Godard et Bergman, et moi j'aime plutôt plus Bresson, je m'étais dit, qu'est-ce qui est possible théâtralement avec le cinéma de Robert Bresson ? Et rien. et je me disais, mais la façon dont il filme l'âne, c'est incroyable, la présence de cet âne qui est au-delà de l'animal, presque au cinéma, mais c'est typiquement du cinéma. Et je m'étais dit, si on veut en faire du théâtre, il faudrait que ce soit l'âne qui filme. Et donc au début, on a commencé à travailler avec l'âne qui était équipé d'une GoPro et qui filmait lui. Et le spectateur voyait le cadrage et le film réalisé par l'âne. Mais rapidement, c'était au bout d'un moment, la tête était toujours en bas et rien d'intéressant n'était filmé. Et comme il ne s'agissait pas de contraindre l'animal, on a laissé tomber la vision pour la parole. On s'est dit non, ce serait peut-être intéressant de donner l'illusion que cet âne parle à un moment ou à un instant pour qu'il y ait cette magie de la présence de l'âne. Voilà. Le seul rapport qu'il puisse avoir avec Bresson. Et puis on a gardé le nom de l'âne, Balthazar.
Là, effectivement, dans le public, il y avait pas mal de jeunes, d'adolescents, mais aussi de plus jeunes. Et c'est vrai que je pense que, comme il y a beaucoup de genres différents, effectivement, au début, on a l'impression que c'est vraiment pour un public, on va dire, enfant. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que ça s'adresserait presque plus à des adultes. Ou alors, en tout cas, effectivement, les enfants vont peut-être chercher à comprendre l'histoire et il n'y a pas forcément d'histoire où c'est plus subtil.
Quoi qu'à un moment, il y a le concours de paix.
Eh ben ça, et que les adultes osent pas se dire qu'ils ont ri et que ça les fait rire aussi. Eh ben voilà. Non, mais les adultes, c'est quoi ? C'est des anciens enfants. C'est l'avenir de l'enfance. C'est l'âge adulte. Enfin bon, bref, tout ça. C'est quand même au début un spectacle qui est fait pour le jeune public et qui doit être intéressant pour les adultes, et y compris nous. C'est-à-dire que c'est une conception du jeune public. On ne s'abaisse pas à faire un théâtre pour les enfants. C'est juste un théâtre où ils n'ont pas besoin de toutes les références nécessaires pour apprécier et faire partie de cet événement. Voilà. Quand je fais des spectacles jeune public, ça doit être mon troisième, celui-là, je cherche toujours à impressionner, plus qu'à transmettre quelque chose. Parce que quand on est adulte, on se souvient des impressions qu'on a eues enfant, même si on n'a pas tout compris. Et ces impressions-là sont une marque pour le futur. Et l'analyse a lieu plus tard. Mais si on n'a pas une impression qui est une émotion esthétique, ou l'émotion d'avoir cru entendre parler un animal, ça, normalement, si l'effet est bien réussi, cette émotion reste toute la vie. Et c'est quelque part s'adresser au futur adulte que d'impressionner dans ce sens-là, esthétique ou magique ou théâtral, l'enfant.
Alors j'ai noté aussi un gros travail sur la musique, mais aussi sur le rythme. Oui. Je pense que c'est voulu parce que vous commencez finalement par une citation, je pense, de Einstein, ou un physicien.
Ouais. Là, c'est Hubert Reeves qui
parle sur Reeves, la... Ça finit par un gros délire mystico. L'âne dans l'univers, bref. Au milieu, finalement, on est dans un rapport au temps qui est un peu plus lent par rapport au temps normal. Et je pense que c'est voulu, d'ailleurs.
Absolument. Mais quand je vous parlais du théâtre, pour moi, qui est un événement, c'est un événement partagé dans le temps avec des gens. Cette notion de temps est absolument centrale et cruciale. S'il n'y a pas une transformation du temps au théâtre, pour moi, il n'y a pas de théâtre. Je veux dire, le peintre transforme la forme, la couleur. Les gens du théâtre transforment le temps. Le temps qui est vécu par tous les gens qui sont là. Et c'est pour ça que le spectacle est long, le spectacle est trop court. Tout ça, c'est évidemment très subjectif. Hein, parce que on change de temps tous ensemble. Et il y a une transformation du temps. Bien sûr, c'est aussi... vous avez bien fait de le mentionner, c'est dit un peu dans le début, où on a une préoccupation sur l'espace, sur le temps, qui est le macrocosme et de, un microcosme aussi. On a des préoccupations les plus intimes aux plus cosmiques.
Oui, d'ailleurs, le spectacle est très onirique par moments.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Peut-être une dernière question aussi par rapport à l'improvisation, puisque à la fin, vous improvisez sur scène. Du coup, le spectacle à la fois est... très écrit, et en même temps, il y a une part vraiment très forte où le personnage peut être libre.
Alors, il y a différents rapports au texte. Déjà, il y a des séquences où il n'y a pas de texte du tout. Il y a des séquences où un texte est tout à fait su et redonné mot à mot, mais là, c'est le conte. C'est quand Victor Lampion vient conter cette histoire de l'énorme cafard aveugle. Ça, le texte est appris et il est su. Sinon, la quasi-totalité des autres scènes parlées, c'est toujours... On sait ce qu'on dit, on a toujours une marge de liberté pour reformuler autrement ou dire un mot à la place d'un autre. Voilà, on n'est pas au mot à mot. Et à la fin, à la toute fin, on a des informations à donner et là, on ne sait pas nous-mêmes ce qui va se passer et qui va lancer le sujet et de quoi on va parler.
Ok, bah super. Merci beaucoup pour cette expérience théâtrale, vraiment très originale et intéressante. Et je crois que c'est la fin à la Croix-Rouge cette semaine. Vous êtes sur un nouveau spectacle ?
Oui, on va le tourner encore l'année prochaine. Moi, je vais monter l'année prochaine La Cerisée de Tchekhov. Et sans doute, je vais lancer un spectacle uniquement de cirque, enfin de clown.
Avec votre compagnie, parce que les acteurs font partie de la même compagnie.
Oui.
Bon, bah, très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.